Bienvenue en Transparence, le magazine de la rédaction qui parle de l'actualité et qui donne la parole à ceux qui font l'actualité. Notre invité ce midi, c'est Jean-Pierre Diaoué, l'un des porte-parole du PALICA et chef du groupe UNI au Congrès de la Nouvelle-Calédonie. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir répondu à notre invitation pour revenir notamment sur l'Assemblée Générale Extraordinaire du PALICA qui était réunie samedi dernier et puis plus globalement, bien sûr, sur la situation de la Nouvelle-Calédonie. En commençant, Jean-Pierre Diaoué, par l'actualité immédiate avec la mort de deux personnes hier lors d'une opération à Saint-Louis. Quelle est votre réaction face à un tel événement ?
Écoutez, on ne peut pas se réjouir quand il y a des morts ici en Nouvelle-Calédonie, c'est des jeunes. Et donc on peut regretter que de telles actions puissent se maintenir dans le pays aujourd'hui. On a demandé à ce que, compte tenu de la situation de la Nouvelle-Calédonie avec la crise, il faut que le calme revienne. Il faut que l'ensemble de la population comprenne qu'il faut que le calme revienne parce qu'il faut reconstruire le pays. Et donc il faut se ranger et puis voilà. Pour éviter qu'il y ait de tels événements qui arrivent. Ça va être encore des familles endeuillées, des mamans qui vont pleurer leurs enfants. C'est insupportable. Il faut que ça s'arrête.
Le commissaire appelle ces jeunes à se rendre à la gendarmerie. Vous pensez que c'est ce qu'il faut faire aujourd'hui que...
Ben, c'est à eux de... Et puis avec l'aide, ce sont des jeunes avec l'aide des autorités coutumières, avec l'aide des parents. Il faut que ces jeunes, parce qu'ils... S'ils ne se rendent pas, ils vont continuellement être recherchés par les forces de l'ordre. Donc à un moment donné, il faut prendre les bonnes décisions au bon moment.
Alors on va reparler du FLNKS, mais vous le savez qu'hier, lors d'une conférence de presse, le FLNKS a parlé de génocide du peuple kanak en affirmant que l'État fait la guerre à la tribu de Saint-Louis. C'est une analyse évidemment que vous ne partagez pas.
Écoutez, ce qui se passe aujourd'hui ici, Saint-Louis, on connaît l'histoire de Saint-Louis, ça ne date pas d'hier. Et ça s'est accentué, ça s'est aggravé, les choses se sont aggravées depuis le 13 mai. Il y a des populations qui ne peuvent pas se déplacer. Il y a des enfants qui ne peuvent pas regagner les bancs de l'école. Il faut que la vie reprenne son cours normal et que ces jeunes puissent intégrer. Il faut que les jeunes reviennent à la raison. C'est pas normal que dans une tribu comme Saint-Louis, il y ait tout le temps des actions, des jeunes. Et puis, moi, je ne connais pas très bien la tribu de Saint-Louis, mais entendre Rock Wamitan qui parlait la dernière fois, il n'y a pas que des jeunes de Saint-Louis, il y a des jeunes d'un peu partout qui sont là. Voilà. Donc, à un moment donné, il faut qu'il y ait de l'ordre dans les tribus. C'est important. Donc, ce sont les autorités coutumières, ce sont les parents qui doivent faire en sorte à ce que ce calme, cet ordre revienne au sein de la tribu.
Quatre mois après le 13 mai, un peu plus de quatre mois même, quelle est l'analyse que vous faites de ces événements ? Quelles en sont les vraies raisons, selon vous, et comment vous expliquez ce déchaînement de violence ?
Écoutez, nous, on n'était pas vraiment informés de ce qui va se passer. À entendre le responsable de la CCAT, notamment de Christian Théin, qui dit que il s'attendait pas à une telle l'ampleur de l'ampleur des actions. Ils ont lancé quelque chose et finalement, à un moment donné, ils n'ont pas pu contrôler les jeunes qui étaient sur le terrain. Et donc, on dit que ce sont des jeunes qui se sont... C'est un cri des jeunes à ce moment-là, des jeunes qui se sentent marginalisés, qui se sentent en dehors de la société dans laquelle ils vivent. Il y a une part de vérité dans tout cela. Donc il y a une responsabilité des uns et des autres, notamment, premièrement, de la part des élus que nous sommes. Mais il y a aussi une responsabilité des parents, parce que ces jeunes-là, ce ne sont pas des jeunes qui viennent de... Ce sont des jeunes qui ont des parents. Et la responsabilité, elle est également de la part des parents. Et donc, ils se sont sentis exclus, et puis à un moment donné, ils se sont dit, c'est un déni, je pense, de la société dans laquelle ils vivent. Aujourd'hui, il faut reconstruire, il ne faut pas reproduire les mêmes choses, donc il faut tenir compte de la jeunesse. Il y a des choses qui ont été faites.
Voilà ce que j'allais vous demander, parce qu'on a l'impression que on dit souvent, pour expliquer ces choses-là, qu'il y a des inégalités épouvantables et qu'on n'a rien fait depuis 30 ans, que l'accord de Nouméa n'a pas permis de progresser.
Écoutez, oui, il y a des gens qui tiennent ce discours-là, que l'accord de Nouméa, qu'on n'a rien fait. Non, on a fait beaucoup de choses. Et les jeunes aujourd'hui, quand ils voient la situation dans le pays, quand ils voient qu'il y ait des collèges, par exemple, dans le Nord, que ce soit des collèges de Koumak, de Ouégoua, de Yengen, qu'il y ait le PSN, le pôle sanitaire Nord, qu'il y ait Koumak, qu'il y ait des collèges, des lycées partout, ça n'a jamais existé, ça n'a pas toujours existé. Moi, de mon temps, quand j'allais à l'école, je marchais à pied. 7 km le matin, 7 km le soir. Aujourd'hui, tous les enfants, pour aller à l'école, se rendent à l'école, ils prennent le car. Ils ont la cantine. Bon, beaucoup de choses ont évolué. Et ça, c'est grâce aux collectivités, grâce aux élus, aux efforts qui ont été faits. Ça n'a pas toujours existé. Donc, bien évidemment, on arrive aujourd'hui, on dit que ces jeunes-là qui croient qu'ils ne sont pas assez pris en compte. Certes, mais il y a des dispositifs, il faut aussi également que les uns et les autres se prennent en charge. Il ne faut pas toujours attendre de la collectivité, il faut également se prendre en charge, il faut être responsable. Et les parents ont un rôle important dans l'éducation de leurs enfants. C'est quelque chose qui est très important aujourd'hui. Et quand on parle aujourd'hui de fracture sociale, c'est ça aussi qui fait qu'il y a... C'est l'inégalité sociale qui fait la fracture. Mais il y a aussi une part de responsabilité des uns et des autres.
L'élément déclencheur de cette violence, ça a été le projet de loi constitutionnelle qui modifiait le corps électoral. Quelle est la position du PALICA sur ce projet de loi ? Vous n'étiez pas opposé forcément à un corps électoral glissant, vous ?
Écoutez, dans la délégation du FNKS qui a discuté avec l'État, quand on a évoqué le sujet du corps électoral, on a dit que, eh bien, pourquoi pas repartir sur les 10 ans, comme le prévoyait l'accord de Nouméa et de Matignon. 10 ans de résidence, et puis qu'il fallait discuter sur les natifs. Et nous, pour ce qui concerne le PALICA, dans la dernière discussion qu'on a eue avec le ministre dans un format tripartite avec les non-indépendantistes, on a proposé, c'est le PALICA qui a proposé, de faire un petit peu comme à l'exemple de ce qui se passe en France pour la citoyenneté française, de mettre en place un code de la citoyenneté calédonienne. C'est quelque chose qui a été bien pris par les non-indépendantistes. Et donc c'est ce que nous avons proposé. Il faut mettre en place un code de la citoyenneté qui dit un certain nombre de critères pour que l'on puisse devenir citoyen de la Nouvelle-Calédonie, en plus des 10 ans. Et à partir de là, on peut discuter.
Avec une sorte d'examen, entre guillemets, enfin de questionnaire à remplir, de c'était comme
de questionnaire à remplir, d'un certain nombre de critères, dont 10 ans de résidence, connaître la culture kanak, les cultures existantes dans le pays, etc. Il y a un certain nombre de critères qu'il faut remplir pour pouvoir devenir citoyen et non pas, comme aujourd'hui, simplement être de la liste liste provinciale pour être citoyen. Donc là, c'était un élément qu'il fallait discuter.
Et puis
on pouvait très bien aussi dire que quand on dit à partir de telle date, on va organiser les prochaines élections provinciales, on peut très bien dire qu'on intègre les personnes qui sont déjà là depuis un certain temps. Et puis ceux qui vont arriver après, on peut très bien dire, ceux-là, s'il y a des élections de consultation pour l'avenir du pays, ceux qui sont arrivés après une date, ils peuvent très bien ne pas participer.
Avec des corps distincts comme il y a eu pour l'accord de Nouméa.
Voilà, tout à fait.
Et l'Union calédonienne, quand vous leur avez parlé de ça, c'est... Ils ont été opposés fortement.
Au moment où on a repris les discussions avec l'État dans le cadre de tripartite, comme je le disais, l'Union calédonienne n'était pas là. Mais dans les discussions qu'ils ont eues par la suite, l'Union calédonienne avec les responsables non indépendantistes, ils sont allés dans ce sens-là aussi, pour développer un peu davantage cet esprit de code de la citoyenneté.
Pour revenir à la CCAT. Elle avait été constituée par l'Union calédonienne en novembre. Vous n'avez pas vu, vous, au sein du FLNKS, l'émergence de ce mouvement et les violences qu'il pouvait porter ?
Non, pas du tout. Parce que c'était vraiment une décision prise par l'Union calédonienne à son congrès de l'île des Pins. Il y avait déjà une structure qui a été identifiée et approuvée par le FLNKS lors d'un congrès, c'est les CNC à l'époque. ce sont les CNC qui ont, sur le terrain, c'est l'organisation qui a travaillé sur le terrain pour préparer et, comment dire, mener les campagnes d'information.
C'est les comités nationalistes citoyens.
Citoyens auprès des populations au moment de la première et la deuxième consultation. Bon, ils ont fait fi donc de la CNC mise en place par le Congrès pour mettre en place la CCAT qui ensuite a monté, a organisé ces fameuses manifestations de manière dans la paix dans un premier temps. Et puis on ne s'attendait pas du tout à ce que les choses arrivent le 13 mai avec une telle ampleur des...
Vous avez d'ailleurs... Il y a plusieurs voix de l'UNI, du Palika qui sont élevées pour condamner ces exactions. Et puis ensuite, il y a eu le congrès au sein même du FLNKS, il y a eu le congrès qui était prévu à Netshot en juin, qui a dû être reporté. C'est à ce moment-là que vous avez pris conscience de la volonté de la CCAT de faire main basse, en quelque sorte, sur le FLNKS.
Ben c'est là où on a vu que la CCAT est venue en masse, en grand nombre, malgré les consignes qui ont été données par le comité organisateur. Le comité organisateur, à l'époque, c'était, bon, il y avait le PALIKA, il y avait l'Union réunionnienne, ceux qui étaient, donc ce sont les organisations politiques qui étaient dans la tribu, et puis les autorités coutumières de Netshaot qui ont demandé à ce qu'il y ait que les délégations soient limitées, compte tenu de la situation où il n'y avait pas assez à manger. On était dans un endroit qui était pas assez grand pour pouvoir accueillir autant de monde. Donc quand ce sont les comités organisateurs qui fixent des consignes, la moindre des choses, c'est de les respecter. Et donc, eux, ils sont venus en nombre parce qu'ils veulent venir prendre le FLNKS, peut-être. C'est ce qui a été dit à leur Assemblée générale à Zareux. Mais bon, les autorités coutumières ont décidé de ne pas tenir ce congrès. C'est la raison pour laquelle elle a été renvoyée.
Alors, il a été renvoyé, il s'est tenu à Koumak à la fin du mois d'août, et là, vous avez décidé, l'UPM et le PALIKA, de ne pas y participer. Pourquoi est-ce que ce n'était pas mieux? On dit que les absents ont toujours tort. Est-ce que ce n'était pas mieux d'être sur place et de vous faire entendre?
Écoutez, on a d'abord demandé à l'Union réunionnienne de nous retrouver entre nous responsables pour pouvoir évoquer la situation. Et donc, chose faite, on l'a fait avant la tenue du congrès. Nous avons évoqué avec les responsables de l'Union réunionnienne que, compte tenu de la situation, les conditions n'étaient pas réunies pour que l'on puisse tenir un congrès dans la sérénité et pouvoir discuter sereinement sur la sortie de crise, de faire comment sortir de la crise actuelle. Donc, il y avait un ordre du jour qui ne nous convenait pas. Et donc, on a dit à l'Union réunionnienne que nous, dans ces conditions-là, on ne participerait pas à ce congrès. Donc, ils ont maintenu la décision de tenir le congrès. Et c'est la raison pour laquelle nous avons dit que nous n'allons pas participer. Donc, on n'a pas participé. Et les décisions qui ont été prises au moment de ce congrès, nous avons dit lors de notre dernière AG à Noélie, à Koné, que ces décisions-là n'engageaient pas le parti, n'engageaient pas le PALIKA.
Quelles sont les décisions qui vous semblent, enfin, qui vous contrarient le plus? Il y a la nomination de Christian Théien comme président du FLNKS, il y a l'intégration d'un certain nombre de petits partis de la mouvance indépendantiste, il y a la volonté apparemment de prendre le contrôle du FLNKS aujourd'hui.
Oui,
qu'est-ce que vous
paraît
le plus grave?
C'est ça, la volonté, c'est ça, mais surtout c'est que les décisions qui ont été prises par la suite et qui ont fait l'objet donc des discussions au sein du Congrès, ce sont des décisions qui ont été prises par l'Assemblée générale qui s'est tenue de la CCAT à Baï. Donc, c'est carrément, comme vous dites, c'est la CCAT qui a pris la main sur le FLNKS. Donc, nous, on a dit, cet ordre du jour-là, ces décisions-là ne nous conviennent pas. Donc, on ne peut pas s'engager dans un congrès avec cet ordre du jour. Et puis, bon, les décisions qui ont été prises pour nous, on dit que ça ne nous concerne pas. L'élection du président Christian Théien, ça ne nous engage pas non plus. Et puis, on va avoir dans les mois qui viennent jusqu'à la prochaine tenue de notre congrès PALIKA en novembre, de voir un petit peu comment évolue le nouveau format du FLNKS aujourd'hui. Et on appréciera au moment voulu si on revient, on réintègre, et comment on réintègre, ou si... la décision, on le prendra à ce moment-là. Il faut qu'on apprécie, on se donne le temps d'apprécier la nouvelle gouvernance du FLNKS jusqu'ici, jusqu'en novembre, et puis on appréciera le moment venu.
Mais alors, comment ça peut marcher? Parce que jusqu'à présent, il y avait quatre composantes. Il restait aujourd'hui quatre composantes dans le FLNKS, quatre groupes de pression. Et chacun avait à peu près une voix. Enfin, chacun, l'adhésion se fait consensuellement. Là, il y a combien de partis maintenant au sein du nouveau FLNKS?
Écoutez, je crois que ça a presque doublé. Je crois qu'on est à 8 ou 9, avec les petites formations qu'il y a. Il y a le syndicat, Parti travailliste, le CKE, le MOI, l'ADUS, je crois qu'il y a un autre...
Il y a MNIS,
voilà. Presque, je crois qu'on est à peu près à une dizaine aujourd'hui. Vous voyez, donc, eh bien... Ça n'a pas été facile quand on était à 4. Maintenant, à 10, ça risque d'être beaucoup plus compliqué. Alors, la question aujourd'hui, c'est, le président va-t-il avoir la possibilité de tenir une ligne qui rassemble, finalement, les 10 organisations qui ont une organisation autonome et qui ont des vues différentes sur un certain nombre de sujets. Donc, toute la gymnastique va être de porter le consensus. C'est la raison pour laquelle qu'on dit qu'on attend de voir. Est-ce que ça va être... quel est le rôle du président? C'est de tenir cette ligne-là ou bien ça va être la ligne qui est défendue par un parti politique? Et aujourd'hui, c'est ce qu'on voit, c'est que c'est plutôt la ligne d'un parti politique qui est défendue. Et donc, nous, dans ce cas-là, on se donne le temps d'apprécier.
De toute façon, vous étiez plutôt opposé à la désignation d'un président, quel qu'il soit. Depuis des années, Lucet le réclame. Vous estimez qu'il faut une direction collégiale pour le FLNKS?
Oui, tout à fait. C'est compte tenu du fait que le FLNKS, il est composé de partis qui sont autonomes. Ça va être difficile pour un président. Ça l'a été. Enfin, on a eu des présidents comme Rocco Amitan, comme Jean-Marie Tjibaou à l'époque, comme Rocco Amitan, comme Paul Néoutine. Et puis, à un moment donné, Paul Néoutine, quand il était président... on avait proposé au niveau du PALICA, compte tenu de la manière dont le FLNKS fonctionne, il a dit qu'il faut qu'à un moment donné, on puisse, compte tenu des avancées qu'on a obtenues par le FLNKS, de dire qu'avec l'accord de Nouméa, l'accord de Matignon, l'accord de Nouméa, on va vers un destin commun, on va vers un vivre ensemble. Eh bien, on essaie de faire en sorte d'ouvrir le mouvement, le FLNKS, vers la Calédonie, vers les Calédoniens, et d'ouvrir pour une union nationale pour ceux qui veulent l'indépendance. Cette proposition-là, elle a été faite au niveau du FLNKS par le PALICA, ça n'a pas été accepté. Et c'est la raison pour laquelle le PALICA ensuite a créé Union nationale pour l'indépendance, avec le PALICA, l'UPM, et une association, l'association UNID, Union nationale pour l'indépendance dans la diversité, avec des gens, des personnes de toute la Calédonie qui ne sont pas forcément encartés dans un parti politique, mais qui sont des progressistes et qui veulent travailler pour le pays. Voilà. Donc, nous l'avons fait, cette proposition-là, ça n'a pas été accepté. Et ensuite, Paul Néoutine a démissionné. Et donc, nous avons toujours privilégié, nous, pour ce qui nous concerne le PALICA, d'avoir une gouvernance collégiale compte tenu de la difficulté au président de tenir une ligne qui tienne compte des positions des différents composantes du FLNKS.
Alors le PALICA doit prendre sa décision donc à la mi-novembre lors de votre congrès annuel de savoir si vous restez ou non membre du FLNKS. Mais franchement, est-ce que le FLNKS existe encore? On a l'impression qu'il a explosé. Là, vous êtes parti, vous avez été viré, l'UPM aussi. C'est plus le FLNKS signataire de Matignon, signataire de Nouméa.
Oui, c'est plus le FLNKS qui a... Bon, le FLNKS, il a signé les accords de Matignon, il a signé l'accord de Nouméa, etc. Mais le FLNKS, au fil des années, eh bien, on a comme l'impression qu'il a un peu perdu de son pouvoir, du fait qu'il a été à l'origine des avancées. Et puis au fur et à mesure qu'on est allé, une fois que les responsables avec les institutions, ils ont intégré les institutions, et bien vous voyez qu'au niveau des comités de signataires, ce sont les signataires et c'est ensuite les responsables institutionnels. Et comme dans la plupart du temps, les signataires sont des responsables institutionnels, ce sont souvent des délégations pour ce qui concerne le FLNKS. On n'est jamais parti en délégation FLNKS pour le comité de signataires. C'est souvent UNI, avec le président de la province Nord, Victor Tutugoro, qui sont dans la formation UNI, et puis l'Union réunionnaine. Et donc le FNLKS, c'est petit à petit, voilà. Et c'est surtout au niveau des institutions. Le travail a ensuite été pris en charge par les responsables politiques qui sont des responsables institutionnels aussi. Donc le FNLKS, disons, a perdu un petit peu je ne sais pas comment dire ça en français.
De son rôle, de son aura.
De son rôle. C'est le rôle du FNLKS, c'est de porter la revendication d'indépendance au niveau local et au niveau international. Donc il l'a fait, il a signé les accords de Matignon, il a signé l'accord de Nouméa. Mais ensuite, dans le suivi, on s'est plus concentré sur le travail institutionnel, parce que quand on est allé dans les institutions, il fallait mettre en place les choses pour aller dans le cadre du rééquilibrage. Ça a pris du temps et le FLKS a perdu un petit peu du rôle qu'il doit jouer.
Et par ailleurs, ces violences depuis le 13 mai, les actions de la CCAT, c'est une question qu'on pose souvent. Est-ce que ça n'a pas fait complètement exploser aussi le vivre ensemble, la volonté qu'avaient les Calédoniens depuis 30 ans d'essayer de trouver une communauté de destin? Est-ce que ça peut encore exister après ce qui s'est passé?
Ça, c'est le plus grand regret qu'on peut avoir, c'est ça. C'est que le fait qu'on a construit, on a essayé de construire ensemble le vivre ensemble. Si ça se voit moins à Nouméa, on peut dire que dans le Nord ou dans les îles Loyauté, c'est quelque chose, c'est un pas en avant pendant ces 30 ans où on a essayé vraiment de travailler ensemble avec les différentes populations existantes dans le... Et ça, c'est quelque chose qui est important. On a fait beaucoup de choses. Il y a eu un travail qui a été fait. On est allé dans le sens de se vivre ensemble. On a essayé d'essayer de mieux se comprendre. Mais c'est vrai qu'avec tout ce qui s'est passé le 13, bon, ce travail-là, il a été anéanti. Et il faut certainement tout recommencer. Mais je ne pense pas que tout soit tombé à zéro. Je pense que dans certains, je veux dire, dans le Nord, comme ailleurs, ici aussi, dans le quartier de Nouméa, où il y a encore des gens qui ont cette bonne volonté, qui disent qu'ils gardent toujours une certaine lueur d'espoir pour dire que les choses ne sont pas complètement anéanties et qu'on a toujours la possibilité de retrouver cette volonté de vivre ensemble. Parce qu'il le faut. Enfin, nous, pour ce qui nous concerne, il faut qu'on vive ensemble, il faut travailler ensemble. Et il ne faut pas que la revendication d'indépendance tourne à une revendication raciste. C'est pas l'objectif de la revendication d'indépendance. On doit construire le pays avec tout le monde et c'est tous. C'est vraiment quelque chose qu'il faut comprendre. On a besoin de tout le monde ici dans ce pays pour construire. On n'est déjà pas assez nombreux et donc on a besoin de tout le monde pour construire le pays.
Dans l'actualité également, beaucoup de choses à dire. Hein. J'ai beaucoup de questions à vous poser encore. Mais dans l'actualité, il y a eu récemment le changement de président au Congrès de la Nouvelle-Calédonie. Vous vous êtes préoccupé de ce changement de majorité parce que Roch Hamilton a donc été battu par Velma Falayo. Mais vous, le groupe UNI, vous avez soutenu Roch Hamilton, qui est pourtant l'une
tout
des
à fait, oui, on a soutenu,
figures de l'UCE.
On a soutenu Roch Hamilton parce que pour maintenir un certain équilibre, quand on est arrivé à mettre en place cette majorité océanienne avec l'éveil océanien, on s'était dit que bon, on met Roch Hamilton à la présidence du Congrès de la Nouvelle-Calédonie et Louis Mapou à la présidence du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Donc c'est un équilibre qu'on a trouvé entre nous.
Qui a été long à trouver d'ailleurs.
Oui, qui a été long à trouver. Donc cet équilibre-là, on l'a trouvé. On a essayé de faire en sorte à maintenir cet équilibre et de faire en sorte à travailler, à trouver une cohésion, une cohérence dans le travail que l'on fait pour qu'il y ait donc un travail, un suivi au niveau du Congrès, un suivi du travail qui est fourni au niveau du gouvernement. Ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile. On a essayé de mettre en place une organisation, de sanctuariser des jours de travail pour qu'on se cale toutes les semaines, s'agissant des lois de pays, des projets de loi, s'agissant des réformes. Malheureusement, ce travail-là n'a pas pu se maintenir dans le temps. Et puis c'est ça qui, à un moment donné, fait en sorte que l'éveil océanien ne voulait plus porter la candidature de Roch Hamilton. Donc nous, on a dit qu'on allait quand même porter la candidature de Roch Hamilton pour maintenir à cause de cet équilibre qu'on avait trouvé ensemble. Malheureusement, si on avait fait les choses autrement, peut-être qu'on aurait maintenu cette majorité-là.
Alors l'une des conséquences dont on parle beaucoup de ces violences insurrectionnelles, c'est bien sûr l'effondrement de l'économie calédonienne. C'est une situation dramatique. Vous le considérez comme ça, vous ?
Oui, tout à fait. C'est une situation catastrophique. On ne s'attendait pas à de telles ampleurs des exactions qui ont été commises le 13 mai. Aujourd'hui, nous sommes à une situation, c'est difficile. 265 milliards de dégâts. La question, c'est comment on va faire pour se redresser sans l'aide de la France. Aujourd'hui, moi, j'ai eu l'occasion de le dire au Congrès de la Nouvelle-Calédonie, nous sommes rentrés dans un processus qui est l'accord de Nouméa, un processus de décolonisation et d'émancipation, pour arriver au terme de ce processus et de dire que la Calédonie peut progressivement voler de ses propres ailes, d'avoir les moyens de ses besoins. Parce qu'il s'est organisé pendant tous ces temps, pendant ces 30 ans, on a mis des choses en place, et puis... Non. Le résultat des cours, c'est quoi ? Avec ce qui s'est passé le 13 mai, c'est qu'on arrive à la fin de ce processus, et aujourd'hui, il y a le plan S2R qui est préparé par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, puis il y a un plan quinquennal sur proposition de Calédonie Ensemble qui demande 500 milliards. Alors, moi je l'ai dit là-haut, demander 500 milliards à l'État au terme de ce processus d'émancipation, eh bien, c'est comme si on devait démontrer que... quel est le meilleur moyen de démontrer que l'indépendance n'est pas viable que de, au terme de ce processus, demander 500 milliards à l'État. Et donc, nous, on a dit très clairement, pour ce qui nous concerne, que nous allons nous afficher dans le plan qui est préparé par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et pas la demande de 500 milliards de subventions données comme ça par l'État. C'est pas possible.
Et vous êtes abstenu, mais vous êtes obligé de reconnaître, de constater que sans l'aide de la France, sans l'aide de l'État, la Calédonie pourrait pas se redresser aujourd'hui.
Ça, on l'a dit très clairement. On ne peut pas continuer sans l'aide de l'État. Et de toute façon, le gouvernement actuel, notre gouvernement collégial actuel, avec une majorité indépendantiste, ils ont fait appel à l'État. Et l'État a répondu. Mais la règle, elle l'a affichée. C'est un pour un. Je donne, mais il faut que la Calédonie donne aussi. Et donc, il a également dit que pour pouvoir donner, il faut également que la Calédonie fasse les réformes indispensables pour l'avenir du pays.
Alors justement, est-ce que les élus du Congrès sont prêts à faire, et du gouvernement, sont prêts à faire ces réformes? Lesquelles pourraient être faites? Et est-ce que dans le contexte politique actuel, on est capable de faire des réformes?
C'est tout à fait la bonne question. C'est dans la situation actuelle de la Nouvelle-Calédonie, est-ce qu'on est capable, on est en mesure de mettre en place des réformes? En tout cas, oui, il y a des réformes qui peuvent être mises en place, mais il faudra que tout le monde mette à la, enfin, soit conscient de la situation, parce que c'est le fait qu'on a beaucoup hésité quand il a fallu mettre en place, changer le modèle, le RUAM par exemple. Bon, il est venu, on l'a adopté, ensuite... il y a eu des recours qui ont été faits. Maintenant, le RUAM, il est dans cette situation-là. Il y a la CLR, il y a Enercal. On n'a pas, à chaque fois, on n'a pas pris les bonnes décisions au moment où il fallait les prendre. Donc aujourd'hui, on est devant le mur. Il faut que l'on se mette tous d'accord qu'il faut entamer les réformes. Mais maintenant, il faut bien examiner les réformes pour ne pas mettre encore les Calédoniens dans la difficulté alors qu'ils sont déjà dans une situation difficile.
Et puis il y a de l'urgence là aussi. On ne peut plus traîner comme on l'a fait ces dernières années. Ouais,
mais là, on est vraiment au pied du mur parce que si on n'engage pas les réformes, l'État ne nous aidera pas. Donc,
un mot, Jean-Pierre Diaoué, sur la filière nickel. Là non plus, là, on en a parlé énormément pendant des semaines, des mois. Il y avait un pacte nickel qui n'a pas été adopté. Depuis, il y a la fermeture de KNS, il y a PRNC qui est à l'arrêt également. Là aussi, la situation est complètement catastrophique. On va pouvoir relancer la filière nickel en Calédonie?
Oui, c'est vraiment catastrophique aussi de ce côté-là, de pouvoir arriver à une telle situation aujourd'hui avec le nickel. La ressource, elle est là. Et puis, les industriels, les opérateurs sont dans une situation telle que, eh bien, ils sont obligés de mettre la clé sous la porte. Personne ne s'attendait à une telle situation quand on a créé avec l'usine du Nord, avec l'usine du Sud. personne ne s'attendait à une telle situation. Mais compte tenu de ce qui se passe avec, dans la région avec la Chine, la situation elle est bien difficile en ce moment. Et c'est regrettable. On ne sait pas comment on va pouvoir reprendre les choses. Quand on voit encore qu'il y a des endroits où on empêche l'activité de reprendre. Parce que c'est au moins reprendre l'activité, ça c'est déjà quelque chose. Mais quand tu vois par exemple, s'agissant de l'usine du Sud, de l'usine du Nord, où l'activité elle est arrêtée, ça fait mal au cœur.
Surtout que pour la province Nord, c'était vraiment un élément central du rééquilibrage.
Tout à fait, c'était un élément central du rééquilibrage. Quand on sait tout ce qu'on a fait jusqu'ici, les efforts que les uns et les autres ont fait pour que l'usine puisse voir le jour, et puis qu'on arrive à un moment où tout s'arrête, je le redis, ça fait mal au cœur. Et puis, on garde toujours espoir. Donc, qu'il y a un repreneur qui... Parce qu'on sait qu'il y a toujours des repreneurs qui n'ont pas tout lâché complètement. Est-ce qu'ils vont pouvoir, à un moment donné, dire qu'ils vont... finalement s'afficher pour pouvoir reprendre.
Vous y croyez encore ?
Oui, enfin moi, pour ce qui me concerne, j'y crois toujours.
Encore deux petites questions, Jean-Pierre Diaoué, dans le domaine politique. Le président de la République a évoqué de la reprise de discussions politiques à Paris, septembre ou octobre. Bon, il n'y a toujours pas de gouvernement en métropole, donc ça va être peut-être un peu compliqué, mais est-ce que vous trouvez que c'est le bon moment ? Est-ce qu'il faut reprendre ces discussions sur l'avenir ? Et vous iriez avec le FLNKS, vous iriez en format uni, comment vous voyez les choses ?
Oui, nous on est, enfin le PALICA et puis l'UNI, on a toujours été pour les discussions avec les partenaires calédoniens. Donc nous, pour ce qui nous concerne, nous on dit que la solution pour l'avenir institutionnel dans le pays, c'est avec les partenaires calédoniens et avec l'État. Il faut qu'on soit tout le monde ensemble autour de la table pour trouver le statut qu'il nous faut pour continuer, poursuivre l'accord de Nouméa. Ça peut pas être autrement pour ce qui nous concerne. Donc nous, on est prêts, on l'a fait déjà. On a eu l'occasion, comme je le disais tout à l'heure, à un moment donné, d'être en situation, en format trilatéral pour discuter. Nous sommes prêts à discuter. On l'a fait déjà entre nous. On était à Deva, on est revenu, on a repris les discussions entre nous. Il faut reprendre les discussions là où elles se sont arrêtées.
Donc, et en prenant en compte le résultat des trois référendums, puisqu'on avait dit qu'on... On faisait le constat de la situation ainsi créée.
Oui, tout à fait. La situation ainsi créée. Bon, il y a eu le troisième référendum. Troisième référendum avec la non-participation des indépendantistes. Il faut prendre la situation telle que, oui, ainsi créée.
Et dernier point, est-ce qu'il faut maintenir les élections provinciales ? Elles devaient avoir lieu en mai, elles ont été reportées, elles doivent avoir lieu maintenant, avant le 15 décembre de cette année. Dans le contexte actuel, est-ce qu'on peut... convoquer oui. Des élections provinciales.
Vous voyez, pour ce qui nous concerne, le groupe uni au Congrès, nous avons voté la loi organique qui décale les élections donc, pour être organisées en décembre. Nous, bon, on est dans cette position-là. Maintenant, est-ce que concrètement, matériellement, l'État a la possibilité donc, de convoquer, de préparer les élections d'ici décembre ? Il nous reste que combien ? 3 mois ? Est-ce que c'est possible ? On ne sait pas. Mais bon, nous disons si c'est possible bon, qu'on le fasse là en décembre, on le fait. Mais si l'État demande à ce que l'on reporte parce que pour des raisons, ben nous aussi on dit OK. Il n'y a pas de souci particulier pour dire soit on les organise là. Si on peut les organiser là et puis le faire là d'ici décembre, OK, nous on y va. Mais s'il faut les reporter, on dit qu'on est également prêt pour. En tout cas, il faut, à un moment donné, ces élections provinciales se tiennent.
Faudra bien les faire. Vous souhaitez que qui s'occupe du dossier calédonien à Paris ? Là aussi, il y a discussion. Est-ce que c'est le président de la République qui doit garder les choses en main ? Il semble avoir l'intention de le faire. Est-ce que c'est le Premier ministre qui doit reprendre le dossier ? Est-ce que c'est le ministre des Outre-mer ? Vous avez une préférence, vous ?
Ben, la dernière fois qu'on a... a dit que le président de la République lui-même voulait prendre en main le dossier calédonien. C'est une bonne chose si le président lui-même prend en main le dossier calédonien. Maintenant, d'après les informations que nous avons, il y a quelqu'un qui est supposé prendre le ministère des Outre-mer, en l'occurrence à la personne de Noël Buffet, le sénateur. On sait aussi que c'est quelqu'un qui connaît bien le dossier calédonien, donc pourquoi pas. On attend les décisions du Premier ministre et puis...
On saura ça dans oui. quelques jours maintenant.
Voilà. Donc en tout cas, nous, ce qu'il nous faut, c'est... Ce que nous souhaitons, c'est d'avoir un interlocuteur. Donc, que ce soit le président de la République, que ce soit le Premier ministre, ou que ce soit Noël Buffet, s'il est nommé ministre des Outre-mer, on sait que c'est quelqu'un qui connaît le dossier calédonien. Donc nous, ça peut nous convenir aussi, ça nous convient. Il nous faut un interlocuteur pour pouvoir discuter, reprendre les discussions. C'est l'avenir du pays qui est important, donc il faut qu'on reprenne les discussions, il faut qu'on se remette autour de la table, nous tous ensemble, tous les Calédoniens, enfin, les responsables, les partenaires calédoniens et l'État, pour trouver, faire en sorte à poursuivre le processus issu des accords de Matignon et de Nouméa.
Et vous gardez confiance.
Voilà.
Jean-Pierre Diaoué, merci d'accepter notre invitation dans ce magazine Transparence.
Merci beaucoup.